France Inter.
France Inter. Le 18-20. Amélie Perrier.
Pour de nombreux propriétaires de maisons, c'est un drame silencieux. Imaginez les économies d'une vie dans une bâtisse qui se fissure. Et les assurances ne prennent pas en charge les travaux pour tenter de la maintenir debout. Des dizaines de milliers d'euros, voire plus. Et ces drames silencieux pourraient concerner une maison sur deux en France, plus de 11 millions de foyers. Alors pourquoi le phénomène se répand? On va parler des règlements climatiques, évidemment. Pourquoi les assureurs ne sont pas toujours au rendez-vous? Et les législateurs? Sans partir de la question, ce sera votre regard politique. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. La nécessité du réarmement qui ne doit pas faire oublier en effet les effets du réchauffement climatique. Un système d'assurance à bout de souffle, des législateurs qui patinent, mais quand une maison craque, c'est toute la société qui se fissure.
À tout à l'heure Yael, on se demandera aussi s'il y a moyen de prévenir les fissures. Travaille-t-on à la prévention? Une semaine en France, c'est maintenant.
Amélie Perrier, le 18-20.
Et bonsoir Pascal Serre.
Oui, bonsoir.
Vous êtes notre premier invité, vous êtes le maire de Chancelade, c'est en Dordogne, tout près de Périgueux, et dans votre commune, eh bien, il y a des maisons fissurées. Combien de maisons fissurées?
Alors à ce jour, il y en a à peu près 140.
140,
c'est-à-dire 6 à 7% du patrimoine de logement de la commune.
Et ça vous vaut d'avoir assigné l'État en justice, on va y revenir. Mais d'abord, il faut préciser que ces fissures, elles sont dues à un phénomène qu'on appelle RGA, phénomène de retrait, gonflement des sols argileux, c'est ça?
Tout à fait. Mais ceci étant dit, je suis un peu atypique. Je vais vous dire, la problématique, elle est plus de replacer les administrés au cœur de notre action, plutôt que d'aller avec les esthètes de la bureaucratie et des aspects juridiques. Parce que tout le monde défend son camp, les assureurs, l'État et bien sûr les usagers.
Et on va voir c'est un casse-tête. Mais d'abord, juste pour expliquer ce phénomène des RGA, en fait, les sols ils sont faits d'argile chez vous, ils se gonflent quand il pleut et puis ils se rétractent pendant les sécheresses et c'est ça qui fait bouger les constructions, c'est ça?
En grande partie, oui, mais il n'y a pas que ça.
Et alors, quelles sont les maisons qui sont concernées chez vous? C'est des maisons anciennes? C'est des maisons récentes?
Alors, c'est des maisons qui, généralement, ont entre 20 et 60 ans.
Et à Chancelade, quand est-ce que ces fissures sont apparues?
Alors, les premières ont apparu au début des années 2000. Il y a eu aucune classification. Moi, quand je suis arrivé en 2020, j'ai reçu beaucoup d'administrés, généralement âgés. Je le précise, c'est important. Ils se sentaient abandonnés, ils savaient pas quoi faire. Et j'ai considéré que notre municipalité devait se porter au devant pour défendre leurs intérêts. C'est ainsi qu'on a pris contact avec un cabinet spécialisé à Bordeaux. Et pour ma part, je suis resté sur un élément qui est le suivant. C'est que les critères d'évaluation datent de 1990 et pour certains de 1973. Or, il ne vous a pas échappé qu'il y a un dérèglement climatique accéléré depuis presque 30 ans. Or, il faudrait peut-être revoir ces critères pour remettre un peu les pendules à l'heure.
Oui, parce qu'il faut préciser que tout commence en fait par la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle pour votre commune. Chancelade n'a pas été classée en catastrophe naturelle, c'est ça?
Non, n'a jamais été classé et étonnamment, le dernier classement fait que toutes les communes autour sont en catastrophe naturelle et nous un peu comme...
Et pas vous.
Ouais, et voilà, comme un puits sans fond, on est là au milieu, on n'a rien, on a des carrières, on a beaucoup d'éléments qui ont certainement été pris en compte, hein, mais point d'interrogation.
Et on vous a donné des explications?
Oui, mais alors je vais vous dire, les tableaux d'analyse du BRGM, faut avoir fait l'ENA hein, pour les comprendre. Moi, c'est pour ça que je vous dis bien tout à l'heure, le premier élément, c'est de constater qu'il y a des gens qui se sentent abandonnés. Et comme vous le disiez en introduction, c'est parfois des dizaines de milliers d'euros qui seraient obligés de mettre sur la table. À 80 ans, une banque ne vous prête pas.
Alors donc vous, à Chancelade, vous avez déposé un recours devant le tribunal administratif pour demander cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Vous n'êtes pas nombreux parmi les maires à lancer ce genre de procédure.
Bah, écoutez, on a fait une première procédure, donc c'était à l'automne dernier. On en prépare une autre, puisqu'il faut que vous sachiez que c'est chaque année, il faut renouveler le recours, puisque chaque année, il y a une classification. Donc, on prépare actuellement la campagne. On suit absolument les 140 et quelques dossiers qu'on a. Les chanceliers viennent en mairie, on les informe, ils nous donnent les pièces, tout se passe très bien. Bon, après, je ne suis pas... comment dirais-je ? Je suis lucide sur la situation. Je suis pas sûr du tout qu'on nous donne gain de cause. Par contre, on lira les attendus.
Oui, parce que très peu de communes attaquent, et celles qui l'ont fait, elles n'ont jamais obtenu gain de cause.
Jamais. Jamais. Mais c'est pas une raison, il faut continuer. Et je vous dis, cet élément, moi, qui me paraît, alors avec la hauteur de vue qu'on peut... Moi, je suis pas spécialiste, mais que des critères datant des années 70-80 soient utilisés aujourd'hui, c'est extrêmement surprenant. Voilà. Donc c'est là-dessus que porte notre recours.
Pascal Serre, restez avec nous, ça va certainement pas apaiser le désarroi ou la colère de vos administrés, monsieur le maire, mais vous êtes loin d'être seul. Désormais, quasiment tous les départements de l'Hexagone sont concernés. Ainsi, je vous emmène à Gâtières, dans les Alpes-Maritimes, à 20 minutes de Nice, à flanc de coteau. C'est une région très construite ces dernières décennies. Gâtières, c'est 4000 habitants et tout un quartier sinistré. Il y a 11 maisons contiguës qui se fissurent, qui s'écroulent ou qui glissent. La commune, elle a été déclarée là victime de catastrophe naturelle après la sécheresse de 2022. Mais vous allez l'entendre, les assurances rechignent toujours. Alors, pour tenter de faire valoir leurs droits, les habitants se sont organisés en collectif. C'est le reportage de Guy Vanctil.
Nous voilà à Gâtières, dans l'arrière-pays niçois. Et c'est joli parce que c'est la Côte d'Azur, mais il y a encore un peu de brume dans la vallée du Var.
C'est un petit coin de paradis où on est. Hein.
Ouais. Et on entend le cucu des oiseaux derrière.
C'est
là.
Ça. Alors, je m'appelle Véronique, donc j'habite Gâtières presque depuis toujours, et il fait bon vivre, justement, ouais. À Gâtières, donc ça reste familial, villageois, là, le quartier, on s'entend tous bien, on fait la fête des voisins, enfin, voilà, c'est vraiment très agréable d'habiter ici.
Sauf que maintenant, entre voisins, on parle de fissures.
Sauf qu'en ce moment, on parle de fissures et les lézards, tout à fait. Des toutes petites fissures qui, petit à petit, se sont agrandies, puis là, maintenant, on les voit bien. Vous pouvez constater, dans le couloir, dans la cuisine... Vous voyez toutes les fissures qu'il y a ?
Tout le long du plafond.
Tout le long du plafond. Et également à l'extérieur, comme ça je vous montre.
Ces fissures, on les retrouve sur les façades d'une dizaine de maisons de ce quartier de Gâtières.
La maison a tendance à se casser en deux au milieu, quoi.
Sur la commune, comme dans la majeure partie du département, le sol est très souvent argileux.
Et donc fragilisé par les changements climatiques, en particulier la sécheresse.
Alors voilà, les fissures sont arrivées en 2022, à peu près au mois de juin. Et donc, vous voyez...
Au total, 11 maisons de ce quartier sont endommagées.
Toute la maison bouge tout le temps, sous mes pieds, voilà.
Réunis dans un collectif, les habitants n'en peuvent plus.
Alors, c'est Fabiola qui a créé un groupe sur WhatsApp pour nous défendre, ou en tout cas partager les difficultés qu'on rencontre.
Alors, je m'appelle Fabiola, j'habite sur Gâtières depuis plus de 30 ans. La maison, c'est nous qui l'avons fait construire. 20 ans sans problème, et puis après, la maison a commencé à se fissurer.
Où ça ? Vous pouvez me montrer ?
Oui, bien sûr. La plus importante, c'est celle-ci.
C'est une grosse, grosse fissure quand même.
Il y a au moins 2 cm qui part du haut jusqu'en bas de la terrasse.
Hein, en diagonale, sur le mur.
Après, avec la sécheresse, ça s'est aggravé de plus en plus. Ah, et ouais. La maison est en train de basculer. Sachant qu'on est sur un terrain argileux, et quand il y a beaucoup d'eau, l'argile gonfle. Et quand ça sèche, ça dégonfle. Ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. Et quand vous avez une maison un peu...
En dur ?
Voilà, en dur, voilà. Et bien, au bout d'un moment, ça craque.
Il y en a beaucoup comme ça ?
Des fissures ?
Ouais.
Il y en a sur toute la maison. Et à l'intérieur, c'est pareil.
On peut voir ?
Oui, bien sûr.
Je suis. Ah, c'est un joli intérieur. C'est impressionnant de voir ce salon bien décoré, avec des jolis meubles, avec des photos gigantesques. Et puis derrière, voilà. C'est lézardé de partout, partout.
Là, au-dessus de la voûte, le long de la voûte.
Je vois pas un mur indemne, en fait.
Non, il y a là. Venez, pas facile.
Je suis. Ouais. Là, c'est la chambre
voilà.
De votre fils.
Voilà, c'est la chambre de mon fils qui a été refaite. Et en fait, voilà, tout a fissuré.
Les fissures ressortent, qu'on le veuille ou non, quoi.
Les fissures ressortent. Vous voyez, celle-là, elle n'y était pas. Voilà, une nouvelle.
Il suffit de pousser un rideau.
Exactement. Voilà, celle-là, elle n'y était pas. Oups.
Quoi ?
Un bout de mur qui tombe.
Pendant que vous le touchez, un bout de plâtre, ouais.
Lucas, c'est quand que tu m'as dit qu'il y avait celle-là ? la semaine dernière, je sais plus.
Ouais. En fait, il y a une semaine, j'ai vu cette petite fissure s'agrandir, donc du coup, j'ai à peine touché et en fait, on a vu le bout partir en fait. Voilà, dans l'ancienne chambre, bah, d'ailleurs, ça s'est encore un petit peu agrandi aussi. On peut même plus ouvrir les volets aussi, donc je reste dans le noir.
En fin d'année, ça fera 6 ans qu'on bataille.
Et que votre maison est en train de se fissurer de partout.
Elle se fissure de plus en plus, de plus en plus. Ça craque, mais on n'y est pour rien. On a des assurances, on pensait être bien assuré, puis en fait, on se rend compte qu'ils ne veulent pas nous indemniser. Ils ne veulent pas payer. Pour moi, il n'y a que les fissures qui travaillent. Voilà, donc tout le long, nous avons des fissures là, là. Voilà, donc ça continue, tout continue à bouger.
Et vous, Fabiola, tous les jours, vous êtes là, au moindre bruit, au moindre truc de poussière, de mesurer l'avancée des dégâts.
C'est ça, tous les jours. Elles sont là, elles me pourrissent la vie.
Et alors, ça c'est ce qui vous arrive à vous, Fabiola ?
Donc, le monsieur qui est en face, il a un problème. Le monsieur qui est en bas, lui c'est pareil, sa maison est complètement fissurée. Ma voisine, c'est pareil. En fait, toute cette partie-là...
Toutes les maisons qui sont autour de nous...
Toutes les maisons qui sont autour de nous, elles ont toutes un problème de fissure.
Hello, hello. On te lève au pied du mur.
Bonjour.
Alors, Gilbert Chavanon, j'habite à Gatière.
Vous, c'est quoi alors les conséquences de cette sécheresse et de ces fissures chez vous ?
Bah, moi, j'ai tout un pan de mur qui est fêlé. Voilà,
vous pouvez montrer là ?
Bien sûr, allons-y. Oh,
bien sûr, il y a ça.
Ça, c'est ma terrasse.
Avec la vue sur la vallée, c'est joli.
C'est joli, puis en plus, je m'approche de la vallée, puisque là, on a déjà gagné 20 cm. Donc, la terrasse est décrochée de la maison. Donc,
ah,
là,
j'avais pas vu. Ouais, ouais. Tu vois, d'un bout à l'autre, la terrasse qui s'est décrochée, là, si je passe ma main, ouais.
Ça doit faire qu'un, ouais, 17 cm.
Oui, je vois même carrément le jour à travers votre maison, quoi. Ça tient par les tuyaux, presque, on a l'impression.
Par les fils, par les fils. Ne coupez pas le courant. On a acheté des... Enfin, moi, j'ai acheté une maison finie.
En disant, voilà, je vais être peinard.
Voilà, ça devrait correspondre à ce que je veux. Ça a l'air d'être bien construit, les murs sont épais, bien isolés, il y a une bonne toiture. Et puis, finalement, 20 ans plus tard, sur des coups de sécheresse, et ben, voilà, la maison est cassée. Voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est pas fini. Mais bon, ça sera jamais pareil, quoi.
J'ai perdu tout ce que j'aimais, j'ai perdu tout ce que j'aimais, j'ai perdu tout ce que j'aimais.
Voilà le reportage de Guy Vanctil à Gatière dans les Alpes-Maritimes. Pascal Serre, vous êtes toujours avec nous en direct de Chancelade en Dordogne. Vous avez entendu, même si vous arriviez à être connu en catastrophe naturelle, comme à Gatière, le chemin vers une prise en charge des assureurs serait encore long ensuite en fait.
Ah, ça sera excessivement long. Mais qui a le temps gagne la moitié de la partie. C'est ce que je dis souvent. Mais ça sera très long. C'est une décennie. C'est une décennie. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes, quand je vous disais tout à l'heure, des personnes qui ont 80 ans, 85 ans. Qu'est-ce que vous voulez quand on leur dit qu'il y en a pour 10 ans? Ils disent, nous, on ne sera plus là. On sera en maison de retraite. Et la maison, on ne peut plus la vendre au prix qu'on l'avait acheté, etc. Donc, c'est vraiment un grand malheur. Un grand malheur.
Que vont devenir leurs maisons à ces sinistrés? Ils peuvent encore habiter dedans ou pas?
Alors, il y en a... Tous y habitent, hein.
Ouais.
Mais c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai vu des situations... Alors, il y a ce que disaient les personnes en témoignage tout à l'heure. Des personnes qui ne peuvent plus ouvrir leurs portes, qui ne peuvent plus ouvrir leurs volets. Ils ont une poutre dans leur maison à l'intérieur qui flanche d'un côté. Vous voyez, et ça s'aggrave. Et étant donné que souvent ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas la couverture des assurances, eh bien ils tombent dans, ils vont pas être SDF, mais quelque part pas loin.
Mais c'est des maisons qu'on va finir par raser ?
On n'en est pas encore arrivé là. Et j'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais il y en a certaines, je pense qu'effectivement, si ça dure 10 ans de plus, ces maisons-là, il faudra les raser. Ouais.
Et vous, Pascal Serre, maire de Chancelade, est-ce que vous délivrez encore des permis de construire ?
Oui, bien entendu. On est très prudent sur les obtentions de permis de construire. On sait qu'il... Alors, c'est quand même assez disséminé, hein, les problèmes de fissures. C'est pas un endroit très précis. Donc, c'est très difficile. On alerte les gens. Quand il y a des demandes de permis de construire, on alerte.
Vous leur dites, il y a des maisons qui sont fissurées sur ma commune, attention.
Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la moindre des choses.
Et c'est toute la commune qui est concernée ou c'est certains endroits, certains quartiers ?
Alors, c'est, je dirais, la moitié de la commune, de façon disséminée, est touchée.
Merci beaucoup Pascal Serre, maire de Chancelat en Dordogne. Merci également à nos amis d'ici Périgord pour le duplex. Yael Gauze,
oui.
Pour le regard politique sur notre question du soir. Le phénomène est d'une telle ampleur et les réponses parfois tellement peu satisfaisantes pour les sinistrés, on l'entend. Que font les législateurs? Ces dernières années, des députés, des sénateurs, des sénatrices, des députés et eux s'emparent de ces phénomènes des RGA, les retraits et gonflements des argiles.
Une maison sur deux en péril, c'est un sujet qui n'avait pas échappé à la vigilance des écologistes dans leur niche parlementaire du printemps 2023. Gros succès à l'époque pour la loi portée par la députée Sandrine Rousseau. Loi votée le 6 avril 2023 à l'unanimité, moins 6 voix.
Il se joue là, dans le bruit des maisons qui craquent, une question essentielle. Comment protéger les citoyens et citoyennes face à l'amplification du réchauffement climatique?
Une petite révolution, cette loi Rousseau, saluée par les collectifs de sinistrés, puisqu'elle inscrit une présomption de sinistre. C'est plus à l'assuré de prouver que les fissures sont liées à ce phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, mais à l'assureur de démontrer que c'est pas le cas. Mmh. Une meilleure indemnisation, un renouvellement des critères aussi pour élargir le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle.
Mais le texte est mort en cours de route.
Ah oui, texte bloqué en mai dernier, aux portes du Sénat, avec l'accord du gouvernement, parce que le monde de l'assurance craignait d'être un peu trop bousculé, et parce que jugé trop risqué ce texte pour les équilibres financiers, surcoût annuel estimé à 1 milliard d'euros avec cette présomption de sinistre, à répercuter évidemment sur tous les assurés. Donc, une loi Sandrine Rousseau caduque, et depuis, bah, plus rien, ou presque, si ce n'est cette proposition de loi déposée par une sénatrice de droite, LR, Christine Lavarde, mais qui vise plus largement à garantir la pérennité du régime des catastrophes naturelles. Un texte censé mieux protéger les assurés, notamment en renforçant les garanties d'indépendance de l'expert qui vient vous voir, qui vient constater les dégâts, et en incitant à mieux prévenir les risques quand vous achetez un terrain. On vient de le voir sur Chancelade.
Ouais.
Cette loi Lavarde, elle est passée en octobre en première lecture au Sénat, mais elle peine à poursuivre sa navette à l'Assemblée. Toujours pas programmée, toujours pas inscrite à l'ordre du jour, on fait du surplace.
Alors vous restez avec nous Yael, justement on va recevoir dans un instant un expert de ces questions. Avant d'accueillir notre second invité, on va mettre une petite lueur d'espoir en musique. J'adore le monde, c'est pas moi qui le dis, c'est The Liminianas et Bertrand Belin qui vous le chante.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres. Ça se tasse, j'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde, j'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel, du ciel. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque. Exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque, de quoi quack en quack. Échec en échec. Mal à l'estomac. Besoin d'un break. N'importe quelle bagnole. Besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek. Le monde, faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Faut faire avec. Le monde. Avec. Tout petit, petit. Tout petit, petit, petit.
J'adore le monde, signé Zoli Mignana. C'est Bertrand Belin dans la playlist de France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France où l'on tente de comprendre pourquoi la moitié des maisons dans l'Hexagone sont menacées par les fissures, les RGA, les phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. Un établissement public, le CEREMA, accompagne l'État et les collectivités sur ces questions. Et pour en parler, on reçoit l'un de ses experts, Lamine Iguilamer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en mécanique des sols. Alors d'abord, expliquez-nous, oui, d'abord ce phénomène des RGA. Les sols deviennent comme des éponges, c'est ça ?
Bah, en fait, c'est des sols argileux qui contiennent une fraction qui est sensible au mouvement de l'eau. Donc quand il pleut, elle se met à gonfler. Et quand on a une période de sécheresse, ça dessèche. Il y a un phénomène de retrait qui se produit. Et donc ces variations de volume font bouger les maisons, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons aussi liées aux facteurs de l'environnement proche de la maison. La végétation, la gestion de l'eau, comment l'eau circule autour de la maison également.
Il y a quelques décennies, seules quelques régions étaient concernées, dont par exemple le centre Val-de-Loire. Aujourd'hui, quasiment toute la France continentale est touchée. Pourquoi ?
Oui, en fait, c'est lié aux effets du changement climatique. On constate depuis 2015 l'accentuation du phénomène.
Ah, vous êtes accompagné.
C'est ça, exactement.
Allez-y,
donc,
je vous écoute.
Donc il y a une expansion du phénomène lié aux effets du changement climatique depuis 2015. On constate des sécheresses de plus en plus intenses qui reviennent d'année en année, des périodes plus longues, couplées aussi avec des périodes de précipitations plus importantes. Et donc c'est un phénomène qui s'alterne avec le retrait-gonflement. Et puis il y a une expansion aussi.
Plus l'écart est important, c'est ça, entre les sécheresses et les précipitations, plus ça bouge, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Donc là, au fait, on a des périodes, des saisonnalités un peu déréglées. On va avoir des périodes de sécheresse plus longues qui commencent même plus tôt. Des fois, on a même des sécheresses hivernales pendant l'hiver. Et donc, toutes ces sollicitations, tout ce dérèglement et changement climatique impactent les sols. Et donc, ça se répercute après sur les maisons, par exemple. Mais pas que, ça touche aussi les routes et ça touche même le ferroviaire.
Et des sols argileux, il y en a partout en France, dans tous les départements, en fait.
Justement, l'une des conséquences du changement climatique aussi, c'est que ça touche pas que les sols argileux très plastiques tels qu'on a l'habitude de les caractériser. Aujourd'hui, ça touche aussi d'autres. Il y a une expansion même dans la nature des sols. Ça touche des sols qui sont aujourd'hui peu plastiques, mais sensibles à ces sollicitations et à ces changements climatiques.
Et on constate donc que ça s'accélère, parce que les RGA, c'est un phénomène qui a été identifié dans les années 50, je crois, observé lors de la canicule de 1976. Mais depuis 2016, ça s'accélère, c'est ça ? Quasiment toutes les années sont extrêmement intenses.
Exactement. Donc, en fait, le phénomène, on ne le découvre pas en lui-même. Il est connu, pas qu'en France, ailleurs dans le monde aussi. Il est connu, documenté depuis plusieurs années. Nous, on s'intéresse au CEREMA sur l'évolution de ce phénomène dans le contexte du changement climatique. On prend l'année de 2015, post-2015, comme année de référence, parce que c'est là où on va avoir, par exemple, l'enchaînement des sécheresses jusqu'en 2020. Ensuite, on a eu un répit en 2021. Et puis, on a une grosse sécheresse qui restera dans les annales, celle de 2022.
Et le CEREMA fait des prévisions sur les années à venir. On s'attend à une situation de plus en plus compliquée.
Alors les prévisions, en fait, c'est les assureurs qui le font. Ils font des projections à horizon 2050-2100 sur le coût de la sécheresse. Ouais. Parce que là aussi, c'est pareil. Ça veut dire que j'ai cité tout à l'heure l'année 2022. On est à un coût record de plus de 3,5 milliards d'euros. Et donc les projections qui se font à horizon 2050 montrent que le coût de la sécheresse va tripler. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'agir très rapidement. Et nous, au CEREMA, on travaille sur le développement de solutions qui vont permettre justement de prévenir et aussi de remédier quand les maisons sont déjà fissurées.
On va en parler tout de suite des solutions, mais on l'a entendu avec les témoignages avant vous, la déclaration en catastrophe naturelle, elle n'est pas évidente. Elle ne paraît pas logique. Des communes limitrophes ne sont pas traitées de la même manière, à la même enseigne.
Alors, ça,
les critères ne sont pas les mêmes pour toutes les communes ?
Alors ça, c'est les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est fait par une commission interministérielle. Il y a à la fois le critère géologique pour l'exposition au retrait-gonflement, il y a le critère météorologique. Et donc ça, ça a été d'ailleurs actualisé plusieurs années. Je pense que la dernière en date, c'était en 2019. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour améliorer justement, documenter ces paramètres qui sont pris en compte. Et nous, au CEREMA, par exemple, on propose un projet qui est d'ailleurs financé par France 2030 et piloté par l'ADEME. Sur 5 ans, on va développer un réseau de stations de mesure qui vont mesurer à la fois la météo, mais aussi l'humidité des sols jusqu'à 2 mètres de profondeur pour essayer d'avoir, pour vraiment documenter, affiner ce paramètre qui va permettre derrière aux assureurs de mieux, prendre en compte les reconnaissances catnates.
Est-ce qu'il y a des constructions qui sont plus vulnérables que d'autres ? Est-ce que c'est plutôt les maisons récentes qui sont les plus touchées, les maisons plus anciennes ?
Eh ben, on trouve de tout. Ouais. On trouve de tout, même les plus récentes, ça veut dire qui ont à peine 5 ans. Ben, en fait, c'est lié à plusieurs paramètres. Il y a à la fois la construction, la qualité de la construction et le suivi des règles de pour construire sur un terrain argileux. Mais il y a aussi tous les facteurs de l'environnement proche que j'ai cité tout à l'heure, parce que le bâtiment, on l'implante dans une parcelle où il y a de la végétation, où il y a peut-être une pente, il y a une circulation de l'eau. Et si on prend pas en compte l'ensemble des facteurs, on peut avoir des maisons qui se fissurent, très anciennes, comme des maisons en pierre ou même plus récentes.
C'est ça, comment on explique que certaines bâtisses, qui ont par exemple 200 ans, elles se fissurent aussi ? Elles ont résisté pendant plusieurs siècles et aujourd'hui elles craquent.
C'est ça, exactement. Ça veut dire que ça fait partie aussi des effets du changement climatique. Ça veut dire qu'elles ont résisté jusqu'ici et après, vu l'intensification liée au changement climatique, on va avoir un sol qui devient de plus en plus vulnérable, de plus en plus sensible aux variations de teneur en eau et donc qui fait bouger même les plus anciennes des maisons.
Et est-ce qu'on a construit ces dernières années sur des terrains qui sont moins solides à cause de la pression foncière, par exemple ?
La construction, elle se fait sur des terrains. Il y a une étude de sol qu'il faudrait faire pour justement mieux caractériser le sol avant de construire. Et justement, c'est de là où doit partir justement le fait de prévenir la fissuration demain à l'avenir. La loi Elan, par exemple, qui est entrée en vigueur en 2020, va obliger désormais à faire justement cette étude de sol ou de suivre des mesures forfaitaires pour mieux construire, pour justement essayer de freiner cette sinistralité demain.
Ouais, le CEREMA travaille sur les solutions, hein, vous l'évoquiez aux fissures. Aujourd'hui, a priori, il y a deux plans hein, quand on a des fissures dans sa maison, les micropieux ou la résine expansive, c'est ça ? Et ça coûte très très cher.
Alors oui, il y a ce qui est appliqué aujourd'hui, vous venez de les citer, mais nous on va travailler davantage sur des solutions d'adaptation au changement climatique, ça veut dire qu'ils prennent en compte tous les facteurs que j'ai cités tout à l'heure, à la fois liés au sol, liés aux facteurs de l'environnement proche. Par exemple, au CEREMA, on développe une solution de réhydratation des sols qui est simple hein, sur le principe. On récupère les eaux de pluie pendant l'hiver et puis pendant l'été, quand le sol a besoin d'eau, on lui apporte l'eau, ce qu'il faut, là où il faut.
Vous hydratez les sols argileux.
C'est ça.
D'accord.
C'est pour justement stabiliser ces sols et qu'ils ne bougent pas, pour justement que la construction ne subit pas des fissures, mais pas que. Donc on travaille sur davantage sensibiliser sur ces travaux d'éloignement de la végétation qui est trop proche des façades.
On abat les arbres à proximité, c'est ça ?
Ouais. À proximité, même les plantations qui sont collées aux façades. On parle aussi de rénover ces réseaux, à commencer d'ailleurs par ça, hein, à vérifier ces réseaux s'ils sont fuyards. Donc les rénover, les déporter aussi, parce que c'est important de prévenir les fuites à l'avenir. Et donc à commencer par ces travaux qui ne sont pas coûteux comparés aux solutions de micropio et d'injection de résine.
Oui, je crois que quelqu'un a quelque chose à dire à côté de vous.
C'est une expérimentation efficace.
Elle a l'air passionnée. On voit qu'il y a plein de solutions. Est-ce que les maisons en bois souffrent moins que celles maçonnées également ?
Alors ça, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui. C'est que, par exemple, dans un lotissement, moi, j'ai eu des retours d'expérience dans ce sens-là, où les maisons en maçonnerie classique se fissurent, et celles qui sont en ossature bois ne présentent pas, en tout cas, de tels dommages, de telles fissures. Donc, on se pose la question de savoir si la construction bois n'est pas peut-être à privilégier sur des terrains argileux en termes de construction, quand cela est possible, bien sûr.
On parle beaucoup des habitats privatifs, hein, depuis tout à l'heure, des maisons. Les fissures, elles apparaissent aussi dans les bâtiments publics, sur les routes. C'est un problème aussi pour l'État et pour les collectivités.
Ah oui, 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 justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne touche pas que les maisons, les pavillons, ça touche aussi les routes départementales essentiellement, donc les départements sont directement concernés. Ça peut toucher parfois aussi des autoroutes dans certaines configurations. Ça touche aussi les voies ferrées, donc SNCF Réseau, par exemple, est conscient de cette problématique sur son réseau. Donc les bâtiments, ça touche pas que l'habitat, ça touche aussi des bâtiments publics, quand c'est des bâtiments qui sont très peu fondés, avec des fondations superficielles. Donc c'est général, c'est plus global que ça. Ça peut toucher aussi les digues en terre, par exemple. Et ça, c'est lié, c'est imputable aux effets du changement climatique.
Merci beaucoup. Merci, Lamine Iguil Hammer. Je rappelle que vous êtes au CEREMA, docteur en mécanique des sols. Merci aussi à la petite personne qui vous accompagnait. L'État concerné, Yaël Gauze, aussi parce que l'ampleur des dégâts menace l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Sur les 30 prochaines années, on l'évoquait, les dégâts liés à la sécheresse devraient atteindre 43 milliards d'euros, selon France Assureur, un montant multiplié par 3. Comment les politiques abordent ça ?
Alors ce petit bébé qu'on a entendu, c'est très important de qui nous écoute, qu'on lui parle, parce que c'est de lui, c'est de son avenir. C'est son avenir qui est en jeu, et c'est simple. On n'en a pas toujours conscience. Si vous parlez aux élus locaux, à ceux qui suivent ce risque climatique au sein de l'Association des maires de France, tous vous diront qu'au rythme où les sinistres s'enchaînent, notre système assurantiel ne pourra pas suivre, qu'il est à bout de souffle. Arrivera un moment où il y aura un refus d'assurer contre les aléas climatiques. C'est ce qui est arrivé récemment à nombreux propriétaires de Los Angeles lors des récents incendies monstres. Et c'est ce qui se produit déjà en France, là où des habitations se situent sur la zone d'érosion du trait de côte. Donc pour revenir à nos RGA, nos retraits gonflements argileux, les assurances ont fait leurs calculs. C'est la deuxième cause d'indemnisation derrière les inondations, avec une prévision de 44% de sinistres en plus d'ici à 2050. Ça, c'est si le thermomètre augmente d'un degré et demi. Imaginez si c'est 4 degrés.
D'où une série d'expérimentation pour mettre en place de bonnes pratiques.
Et on en a parlé avec notre invité, notamment l'idée d'humidifier au maximum ces sols argileux, d'injecter parfois un fluide dans les sous-bassements. Mais c'est très cher, ça coûte très cher. Plus largement, Amélie, cette impasse sur les RGA nous renvoie à d'autres impasses. Un Parlement au ralenti ou bloqué par les équilibres issus de la dissolution, un budget vert fragilisé, sacrifié, diront certains, sur l'autel du redressement des comptes. Même la sénatrice LR, dont je vous parlais tout à l'heure, Christine Lavarde, s'en est émue récemment au Sénat.
Malheureusement, les coûts financiers à l'inadaptation au changement climatique sont très difficiles à quantifier, et cette difficulté à quantifier d'un point de vue économique ne facilite pas le soutien de ces crédits dans les discussions budgétaires. Je pense ici à MaPrimeRénov, au Fonds vert. Alors je vous le dis ici, pour moi, le redressement des comptes publics est une priorité, mais surtout la cohérence des politiques publiques en est une autre.
Et oui, la cohérence, un fonds vert pour les collectivités deux fois moins doté que prévu, et ça c'était avant la nouvelle ère annoncée par Emmanuel Macron, dans laquelle les efforts doivent converger vers plus de moyens pour nos armées. Comment faire quand tout est prioritaire?
Merci Yaël Gauze pour ce point politique sur les RGA, retrait gonflement des sols argileux. Une semaine en France, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans un instant, on rejoindra nos amis des radios locales de Radio France. Avant, on écoute NDDO, It Needs Me.
And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. It could be fantasy. Da 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 da. dance, I'll take a chance, I will because he needs me. No one ever asked before because they never needed me. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, he needs me, he needs me, he needs me.
It's me, de la chanteuse Ndidio, chanteuse canadienne d'origine nigériane. J'en profite pour remercier Djoubaka, le programmateur qui a choisi la musique ce soir. Grand merci aussi à Juliette Gou à la réalisation cette semaine. À la console technique, c'est Julien Dumont, Loïc Frapsos et Stéphane Beaufis. Lionel Thompson est à la rédaction en chef, à la préparation, Julie Deltay et Joachim Taïeb. Merci à eux.
France Inter, le 18-20. Amélie Perrier.
Une semaine en France, partout en France, grâce au réseau Ici, les radios locales de Radio France. Nous allons ce soir en Corse, en Gironde et dans le Périgord. Yves Maugue, Caroline Saglione, Charlotte Jousserand, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Allez, on débute en Gironde. Yves Maugue, à Mios, une petite ville sur le bassin d'Arcachon. La mairie vient de lancer un appel face au manque de médecins généralistes. Une pétition est en ligne et des affiches, des autocollants sont placardés partout dans la commune, Yves.
Oui, ça peut paraître étonnant car Mios n'est pas une commune éloignée des grands centres urbains. C'est même l'une des communes de Gironde qui se développe le plus. Sa population a doublé en 15 ans. Elle est située dans un secteur où il fait plutôt bon vivre, au bord du bassin d'Arcachon, pas loin de l'océan et pas loin non plus de la métropole bordelaise. Et elle compte aujourd'hui 4 médecins généralistes pour ses 12 500 habitants. Le problème, c'est que sur ces 4 médecins, 3 vont partir à la retraite dans les prochains mois et ils ne trouvent pas de successeur.
Ah oui, on pourrait imaginer que la commune attire des médecins.
En fait, Mios est un peu dans une zone grise, pas aussi attirante que les villes de la métropole bordelaise ou que les cités balnéaires qui l'entourent, et pas non plus dans un secteur qui permette aux médecins candidats de bénéficier d'aide à l'installation. Alors au-delà du souci de santé pour les habitants, les entreprises s'inquiètent aussi de la perte d'attractivité de la commune. L'ambulancier de Mios, par exemple, n'a donc pas hésité à placarder les affiches sur sa vitrine. Même chose pour les agences immobilières. L'idée de la mairie, c'est en fait de convaincre l'agence régionale de santé de modifier le classement de la ville pour que les installations de médecins soient favorisées.
Yves Maugue, ici Gironde. Direction maintenant le Périgord. Charlotte Jousserand, vous nous emmenez nous baigner. Le projet d'une piscine couverte vient d'être validé dans une commune d'un peu plus de 5000 habitants à l'ouest de Périgueux. C'est un événement car on manque de piscines couvertes en Dordogne pour apprendre à nager.
Oui, il n'y a que 5 piscines couvertes en activité dans tout le département et c'est une vraie problématique pour les jeunes ici. À Sarlat, on veut en construire une, mais le projet est repoussé faute de financement. Dans l'agglomération de Périgueux, la plus grande piscine du département, l'Aquacap, est fermée. Elle perdait 15 000 litres d'eau par jour à cause des fuites et son avenir est incertain car le bassin est plein de malfaçons. À Montpont, comme il n'y a pas de piscine, les scolaires vont apprendre à nager dans le département d'à côté à 15 km de là, en Gironde.
Et comment la communauté de communes a fait pour valider un tel projet ?
Alors, ça fait plusieurs années que la communauté de communes de Montpont, cette commune de environ 5000 habitants, travaille sur ce projet contesté par certains maires. Tous sont d'accord pour qu'il y ait une piscine à Montpont, mais ça coinçait pour le coût. C'est cher à financer une piscine et à entretenir, environ 350 000 euros de coût annuel. Mais la communauté de communes est allée chercher des subventions. Europe, État, région, plus de la moitié des 6 millions d'euros sont financés. Le reste, ce seront des emprunts et sans augmenter les impôts, promet le président de la collectivité. Il assume avoir fait des économies sur certains postes, ne pas avoir remplacé des départs à la retraite et d'avoir mené une politique de rigueur pour financer cette piscine à Montpont. Elle doit être construite d'ici mi-2027, dans 2 ans donc, et elle accueillera 1500 scolaires à terme.
Charlotte Jousserand, ici Périgord. Et l'on termine notre tour de France ce soir en Corse. Caroline Saglione, la Corse région, de nouveau la plus généreuse pour l'argent de poche donné aux enfants. C'est la deuxième année consécutive.
Et oui, c'est ce qui ressort du baromètre réalisé en fait par le Teenage Lab de Pixpay. C'est une start-up spécialisée dans les cartes de paiement pour les adolescents. Alors avec un budget mensuel moyen de 39 euros accordé par leurs parents, les enfants corses, nous dit-on, sont les plus riches du pays. Alors ça peut paraître effectivement paradoxal sur une île qui fait partie quand même des régions les plus pauvres de France, où un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Mais on va quand même préciser que les prix à la consommation ici chez nous en Corse font partie également des plus élevés, de l'ordre de 7% selon une enquête de l'INSEE, ce qui peut quand même expliquer en partie, on va le dire en partie, ce phénomène. Alors certains parents nous ont confié aller parfois jusqu'à 60 euros par mois. Souvent les établissements scolaires, il faut le dire, sont éloignés de leur lieu de vie. Cet argent de poche permet en fait de payer le transport en commun et les déjeuners en ville. Et puis il y a certains maîtres de conférences en économie à l'Université de Corse, il s'appelle Sauveur Giannone, qui indique que dans les sociétés méditerranéennes, on cède quand même facilement aux caprices de l'enfant roi. Et puis pour beaucoup d'enfants, le regard des autres aussi est important. Quand on voit les copains aller manger une glace, boire un verre, eh ben on veut avoir un peu d'argent dans le porte-monnaie. Voilà, c'est valorisant.
Caroline Saglione, ici RCFM, Charlotte Jousserand, Yves Maug, merci à tous les trois en direct du réseau ici, les locales de Radio France pour une semaine en France.